franceinter.fr.
Je fais plus israélien que le commun des Israéliens et rien ne me fait plus plaisir que de l'entendre de la bouche d'un juif. On me dit souvent « Vous n'avez vraiment pas l'air arabe ». Certains prétendent que c'est du racisme, mais pour moi, c'est un compliment, comme une victoire. Être juif, n'est-ce pas ce que je voulais ? Après beaucoup d'efforts, le résultat est là. Papa dit qu'un arabe restera toujours un arabe. Il a raison. Les juifs peuvent bien vous faire croire que vous êtes des leurs et paraître le plus aimable au monde. À un moment ou à un autre, il faut vous rendre à l'évidence. Pour eux, vous restez toujours un arabe. Parfois, quand je reviens à la maison, il m'arrive d'emprunter quelques-uns de ses livres à mon père. Je déteste lire en arabe, mais je ne peux pas m'empêcher d'y jeter un coup d'œil, ni de chercher à comprendre pourquoi Mahmoud Darwish est tenu pour un grand écrivain et pourquoi Émile Habibi a reçu le prix Israël. Le dernier livre que je lui ai volé était « Tamarat al-Balad » de Salman Nathour. Il y est question d'un jeune arabe, un poète, je crois, ou un écrivain, qui décrit l'ambiance d'un peuple de Tel Aviv. Il dépeint les juifs de gauche qui le courtisent, l'écoutent et aiment se faire voir en sa compagnie. De jeunes et jolies filles viennent l'embrasser et s'asseoir à sa table. Il écrit qu'à un certain moment, il s'est même cru totalement assimilé. Comme je me sens stupide aujourd'hui d'avoir pu penser comme lui.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Sayed Kachoua est à la fois palestinien et israélien. Un oxymore dont il ne cesse de décrire les conséquences avec un humour féroce, livre après livre, et dans « Travail d'arabe », une série télévisée qui a rassemblé pendant 4 ans juifs et arabes pour une fois réunis par le rire. Né à Tira, en 1975, dans un village de Galilée, bon élève, il est admis à 15 ans dans une école hébraïque de Jérusalem. Dans son premier livre, un roman autobiographique intitulé « Les Arabes dansent aussi » qui vient d'être réédité aux éditions de l'Olivier, Kachoua raconte sa découverte de la littérature et d'une vie libérée du poids des interdits, ainsi que son premier amour, une jeune fille juive, qui lui expliquera que leur relation est sans avenir. C'est en hébreu que Sayed Kachoua est donc tombé amoureux pour la première fois et qu'il est aussi devenu un écrivain et un journaliste dont les chroniques hebdomadaires dans le quotidien Haaretz ont un grand retentissement. Dans ses autres livres, « Et il y eut un matin » et « La deuxième personne », tous traduits par Jean-Luc Alouche et parus également à l'Olivier, Sayed Kachoua raconte, avec la même ironie ravageuse, la discrimination dont sont victimes les Arabes israéliens, le mépris de ceux-ci envers leurs frères palestiniens et le fossé au sein des familles arabes entre ceux qui ont choisi de vivre à Jérusalem, à l'israélienne, et ceux qui végètent encore dans des villages surpeuplés, sans travail et soumis à des traditions étouffantes. Mais il arrive un jour où l'humour ne suffit plus pour affronter une situation chaque jour plus terrifiante. En juillet 2014, des colons juifs immolent par le feu un jeune garçon palestinien qui se rendait à l'école. Sayed Kachoua décide alors de mettre à l'abri sa femme et ses 3 jeunes enfants et de s'installer à Champaign, dans l'Illinois, où l'université lui offre un poste de professeur. Depuis, il tente de se reconstruire, d'écrire, de souffler un peu. Il envoie chaque semaine sa chronique à Haaretz et apprend l'hébreu à des étudiants juifs qui, dit-il amèrement, ont plus de droits que moi de vivre en Israël. De passage à Paris, il y a quelques jours, Sayed Kachoua s'est arrêté un moment dans le studio de l'Humeur Vagabonde.
Oasis. chance we can
Je poursuivrai mon père pour m'avoir donné de faux espoirs, pour m'avoir trompé. Quand je pense qu'il me faisait chanter « À notre terre, chantons l'étendard dressé, entonnons à la gloire de notre terre des chants merveilleux ». Je le poursuivrai pour m'avoir fait croire pendant la guerre du Liban que les ténèbres laisseraient place à la lumière. Il me fait bien rire lorsqu'il s'exclame, à chaque fois que Gaza et Ramallah sont bombardés, « Maintenant ça y est, c'est fini pour eux ». Je me souviens quand jadis on chantait nos chants de liberté et d'unité nationale. Je me rappelle que papa haussait la voix quand nous entonnions « La révolution populaire est le chemin de la victoire ». Jamais je ne lui pardonnerai de nous avoir fait croire que nous pourrions vaincre l'ennemi avec des pneus et des pierres. Dans mon cœur, plus le moindre espoir. Je suis plein de haine. Je hais mon père qui m'a condamné à rester vivre en Israël. Lui qui nous a appris que nous n'avions pas d'autre endroit où aller, que mieux valait mourir sur cette terre à laquelle nous n'avions pas le droit de renoncer. Je me vois lui dire tout ce que j'ai sur le cœur, que sans toutes ces bêtises qu'il nous a inculquées, je serais parti depuis longtemps. Maintenant, il doit être aussi ivre que moi. Lui s'attache encore quelque espoir. Autrement, il mourrait. L'espoir s'amenuise, mais il couve. Comme quand il ne peut s'empêcher de pleurer à chaque attaque sur Nazareth. Il dit que la souffrance annonce la délivrance, comme lorsqu'il était en prison.
Bonsoir Sayed Kachoua.
Shalom.
On vient d'entendre une lecture de votre premier livre paru en France, c'était en 2002. Ça s'appelle « Les Arabes dansent aussi », ça vient de reparaître en France en édition de poche. Et déjà en 2002... vous écriviez que dans votre cœur, il n'y avait plus le moindre espoir. « Je suis plein de haine », dit ce personnage qui vous ressemble énormément puisque c'est un livre autobiographique. Vous êtes resté en Israël jusqu'en 2014. Vous êtes parti aux États-Unis il y a un an. Et pourtant, voilà, vous avez supporté 12 ans ce manque d'espoir. Qu'est-ce qui soudain a fait que vous ne pouviez plus du tout rester dans ce pays qui s'appelle Israël ?
Oh, נכון, האמת שזה קטע שאני זוכר אותו, והוא קטע מהספר שהוא מאוד, מאוד קשה.
Je me souviens de ce passage, effectivement, c'est un passage extrêmement dur.
וזה נכון, באמת,
שאבא
שלי הזהיר אותנו מגיל אפס.
Père nous disait, depuis que je suis né, depuis qu'on a 0 ans.
להיות זרים, להיות פליטים, זה פחד
שהוא שרש. Il nous a dit qu'il ne fallait pas être des réfugiés, il ne faut pas être des exilés.
ועזבתי, כן, בקיץ האחרון.
Et oui, je suis parti l'été dernier.
אולי מה שקרה יותר מכל דבר אחר זה...
Peut-être que ce qui s'est passé plus que toute autre chose, c'est que mes enfants grandissent.
וראיתי ש...
Et j'ai vu que...
שאולי אני כופה עליהם דרך...
Peut-être que...
לא טובה.
Je leur impose une voie qui n'est pas la bonne.
יכול להיות... התחושה הזאת שהכרחתי אותם...
Sentiment que je les ai contraints.
לגור ב...
De vivre...
ירושלים המערבית...
Dans Jérusalem Ouest, Jérusalem Occidental, passer de l'Est, le quartier arabe, à l'Ouest, le quartier juif, passer dans les deux langues.
וראיתי שהם...
Et j'ai vu que...
כל החלומות והמחשבות ואולי האשליות
שיום
אחד הם יכולו להיות שווים או להרגיש שווים
toutes les illusions
במדינה,
que ces enfants pourraient se sentir égaux dans un pays dans ce pays et bien tous ces espoirs se sont envolés l'été dernier
וחוץ מזה ש... שהקיץ האחרון השנאה
De plus, la haine, le racisme en Israël sont arrivés vraiment à des sommets que je n'avais jamais vus précédemment.
Ça n'a
jamais été facile, vous savez, en 2000... Depuis 2000, c'était 14 années extrêmement dures. Mais l'été dernier, peut-être parce que je suis déjà devenu quelqu'un de, disons, célèbre, quelqu'un qui représente quelque chose au sein d'Israël, j'ai senti des attaques personnelles extrêmement dures. Et voilà... L'été dernier, j'étais dans une crise importante. Et une peur importante aussi, j'ai ressenti une peur.
Ben,
en quelque sorte, j'ai fui.
Saïed Kachoua, vous avez fui et vous écrivez, vous avez écrit dans une des lettres que vous avez échangées au début de votre exil américain avec votre ami Edgar Keret. Vous écrivez « Je suis un arabe palestinien incapable d'écrire autrement qu'en hébreu, coincé aujourd'hui au fin fond de l'Illinois ». Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'Illinois ? Je crois que votre éditeur ou votre agent américain vous propose d'aller à New York ou à Boston, bref, sur la côte Est, où vous auriez sans doute plus d'amis, plus de vie intellectuelle qui vous ressemblerait davantage. J'ai l'impression que aller à Champaign, Illinois, a été pour vous comme une sorte de punition pour cet exil. Cet exil que vous n'aviez jamais voulu envisager avant, que votre père vous avait fait redouter. Est-ce que c'est un peu ça, c'est un peu de l'ordre de l'expiation d'être à Champaign, Illinois ?
Non,
c'est vrai, c'est un tout petit endroit, c'est un patelin. Il y avait d'autres options pour vivre dans d'autres endroits des États-Unis.
Mais
je dois dire que ce sont des gens adorables. C'est une merveilleuse petite université.
Et
parfois, c'est peut-être un peu trop à la surface des choses, mais on a réussi en un an à nous faire des amis merveilleux. Et je n'ai eu aucune occasion de faire ça en Israël. Et à la fin des fins, dans l'Illinois, j'ai des amis d'Égypte, du Liban, et même d'Israël, des choses que je n'avais pas jusqu'à présent. Le campus de l'université a une atmosphère internationale. Les enfants aiment beaucoup être là-bas. Ça, On a l'impression que c'est beaucoup plus facile de vivre dans un coin comme ça, du point de vue de l'école, du point de vue des copains, d'élever des enfants. Bien sûr qu'il y a eu des offres de beaucoup d'autres endroits, comme New York, Boston et autres, mais je sais que, en fait, c'est très très cher de vivre dans les grandes villes aux États-Unis. Et puis, je pense que j'ai commencé à m'habituer à cette idée. Quand il n'y a pas beaucoup de choix, quand il y a trois restaurants en ville, eh ben, il vaut mieux rester chez soi et écrire. Mais moi, pour l'instant, je reste chez moi et je regarde la télé.
Donc,
je ne sais pas si c'est une punition que je m'impose. Les gens m'ont vraiment invité à rester trois années supplémentaires, c'est très généreux de leur part. Et puis je voulais aussi un peu me déconnecter. Vivre pour la première fois dans un kibbutz, la première fois de ma vie. Donc, pour l'instant, je me repose un peu, j'écris un peu. Et une des choses qui aide, c'est qu'on peut acheter du whisky pas cher, et ça aide beaucoup.
Saïed Kachoua, dans les trois livres de vous qui ont été publiés en France, aux éditions de l'Olivier, depuis le premier dont on parlait, qui s'appelle « Les Arabes dansent aussi », vous écrivez sans cesse sur cette sorte de schizophrénie qu'il y a à être un arabe israélien dans un pays comme Israël, où vous, ça vous oblige à ne plus vous sentir chez vous nulle part, ni chez les Palestiniens, c'est-à-dire dans le village de votre famille. Vous avez beaucoup écrit sur ce village, Tira, dans le Triangle. Et puis, ne pas vous sentir non plus chez vous à Jérusalem. Être à la fois un écrivain dans la langue de l'occupant, dans la langue israélienne, et en même temps reconnaître que cette langue vous a ouvert le monde culturel, que l'arabe et la vie dans les territoires ne vous ouvraient pas. On se demande si justement partir dans l'Illinois, c'est peut-être avoir un peu de paix pour recoller les morceaux de son esprit, de sa tête, de sa personnalité, qu'Israël vous oblige à éparpiller dans tous les sens. Est-ce que vous vous sentiez devenir totalement schizophrène là-bas ?
Je ne sais pas, vous savez, la schizophrénie, c'est un mot extrêmement dur. Vous savez, on porte du tort, si on appelle ça la schizophrénie. On porte tort aux gens qui sont vraiment schizophrènes. Excusez-moi, moi je parle en tant qu'époux d'une femme qui est psychologue clinique. Donc, c'était un sentiment d'échec. Mais il faut être séparé, vous savez, c'est même du point de vue de la loi, les Juifs ne veulent pas que vous viviez parmi eux, et ils ne vous voient pas, ne vous considèrent pas, vous, ou Arabes, comme citoyens à plein titre du pays. Voilà, vous êtes partie de la minorité arabe, vous faites partie d'une certaine cinquième colonne, et c'est pas pour vous que le pays était créé. Et c'est un sentiment qui est présent tout le temps. Peu importe ma réussite, ou je fais partie de ce groupe qui n'est pas voulu et qui est en danger. Il y a des plans pour se débarrasser de cette population. Donc ce sentiment aussi d'être dans l'Illinois, soudain j'ai des étudiants qui sont charmants, mais le fait que qu'il soit né d'une mère juive, alors, bon, le fait qu'il soit né d'une mère juive, ce pays leur appartient plus qu'à moi, moi qui écris en hébreu. Et moi je suis pas souhaité, je suis pas désiré, ni voulu dans ce pays. Et eux, oui. Simplement parce que eux ont une mère juive. Mais c'est un problème extrêmement compliqué. Et ça sera un problème pour tout être qui est né dans un pays qu'il ne considère pas comme citoyen. Et du côté palestinien, je n'ai jamais vécu dans les territoires palestiniens. Moi, je suis né Et j'ai grandi à Tira, c'est ma maison. Mais bon, c'est un lieu véritablement bon. On est à la campagne. Et puis, vous savez, depuis 1948, il n'y a aucun village, aucune ville arabe n'a été construite. On est né dans un village. Peu importe si on apprend, si on va étudier à l'extérieur du village. Finalement, il faut revenir à ce village. Et c'est une contrainte. Et comme je vous le dis, il n'y a eu aucune ville arabe qui n'a été construite depuis 1948. Donc, ou alors on choisit de vivre une vie patriarcale dans son village, où là, il y a des lois qui contraignent les Arabes à vivre dans le lieu où ils sont nés, ou alors on choisit la vie citadine, ça veut dire vivre dans un quartier juif, ou dans une région juive, et c'est un dilemme extrêmement complexe, et bien sûr la langue. Tout arabe doit apprendre et parler l'hébreu. C'est la langue du pays. Si vous voulez être avocat, si vous voulez apprendre, il n'y a pas d'université arabe en Israël. Donc il faut apprendre l'hébreu. Donc, et quand on en arrive à l'écriture et à la culture, en plus n'importe quel autre métier. Et à ce moment-là, du côté palestinien, du côté arabe, on vous accuse d'avoir adopté la langue de l'occupant et d'avoir abandonné la langue arabe qui se trouve dans une situation difficile, qui est en lutte face à l'hébreu en Israël. Donc la langue arabe est extrêmement importante pour les Arabes, quelque chose qui renforce leur identité. Donc j'espère beaucoup que, en fait, toute décision telle que, par exemple, vivre en ville, c'est une décision politique. Et c'est une décision révolutionnaire, en quelque sorte. Et, par exemple, à Tel Aviv, la plus grande ville d'Israël, il y a 20% de Palestiniens, enfin d'Arabes qui sont considérés comme citoyens d'Israël. Je ne sais pas combien de familles en tout vivent à Tel Aviv. Vous savez, c'est une discrimination que je ne suis pas prête à accepter. Bon, finalement, là, d'après ce que je viens de vous dire, vous allez comprendre que je suis quand même un petit peu schizo.
Saïed Kachoua, dans le deuxième livre que vous avez publié en France, Il y eut un matin, qui est paru en 2006, vous décrivez d'ailleurs une sorte de politique fiction, le moment où Israël se mettrait tout d'un coup à rendre des territoires occupés, et dans ces territoires qu'ils rendent à l'État palestinien, il y a des villages où vivent des Arabes israéliens. Et tout d'un coup, on se rend compte, vous avez toujours eu une écriture qui manie beaucoup l'humour noir, que pour les Arabes israéliens, c'est un jour de deuil que l'idée de perdre la nationalité israélienne. C'est aussi un des problèmes qui se pose à ce partage hypothétique de terre. C'est au cœur de ce livre-là.
C'est vrai, parce que cette question qui est toujours posée, et il est interdit de poser cette question à un citoyen ou quelqu'un qui se considère comme un citoyen. Je ne sais pas à quel point le pays, l'État, nous considère comme citoyen, mais moi, c'est la seule citoyenneté que je possède. Hein, jusqu'à présent, le seul passeport que j'ai, moi, c'est le passeport de l'État d'Israël. Et donc, il y a toujours cette question. Est-ce que s'il y a un jour un État palestinien, est-ce que tu seras prêt à vivre dans un État palestinien? Je voulais traiter de cette question que les Israéliens posent. Nous savons que tu es sous contrainte, que tu es un citoyen de seconde classe, si ce n'est pas un citoyen de troisième ou quatrième classe. On sait que tu vis dans un ghetto pauvre, mais tu dois toujours dire encore merci, parce que ta situation est meilleure ici que si tu vivais chez les Palestiniens dans un État arabe. Et c'est un sentiment qui est vraiment difficile à accepter. C'est une question qui n'est pas honnête, parce que quand un Palestinien demande « Est-ce que tu es prêt à vivre dans un État palestinien ?», c'est pas une question, parce que l'État n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre derrière un grillage, derrière un mur, parce qu'il n'y a rien, il n'y aura pas d'économie, vivre derrière des checkpoints. Quand on pose cette question à un citoyen normal, évidemment, il va répondre, ben non, personne ne voudrait une vie comme ça, parce que pour l'instant, on a la liberté de circulation, on a une aisance sociale, je ne veux même pas parler de démocratie ici, mais bon, de ce point de vue-là, du point de vue des citoyens arabes. Donc, on ne peut pas poser cette équation économique. On est tellement dépendant qu'on ne peut pas penser à une autre option. Mais il n'y a pas d'économie arabe. Il n'y a pas d'économie arabe indépendante. Nous vivons aux marges de l'économie israélienne. Il n'y a pas de capital arabe ou une capacité de se développer. Non, non, nous sommes des fournisseurs de services et nous dépendons, nous sommes presque, disons, comme des esclaves dans ce pays. Et ça fait peur quand on pose une question telle que celle-là. Est-ce que tu voudrais vivre ailleurs? Et parfois, je regarde Jérusalem. Et la vie est vraiment dure. Il faut poser les questions aux gens qui vivent sur place. Peut-être qu'ils ne voudraient pas vivre dans l'autorité palestinienne. Parce que ces gens qui vivent actuellement en Israël, les Palestiniens qui vivent en Israël, reçoivent un petit peu de sécurité sociale et là-bas, ils n'auraient rien. Donc, l'esclave a plus besoin du maître que le maître a besoin de l'esclave. Et voilà, donc il y a... Nous sommes liés à l'économie israélienne et il y a une peur de l'indépendance. Et quand on regarde les territoires et les pouvoirs arabes autour d'Israël, c'est pas des lieux qui sont très attirants. Mais moi, j'ai jamais accepté cette équation que les Israéliens ont tenté d'imposer aux Arabes. Ne vous comparez pas, disent les Israéliens, aux Israéliens. Comparez-vous aux quartiers pauvres d'Égypte, de Syrie ou des ghettos du Liban. Ben moi non, je dis non, mais moi je suis un citoyen israélien et je dois me comparer avec les autres citoyens israéliens. Voilà, c'est comme ça. Mais ça ne fonctionne pas. Et cette équation de nous forcer à nous mesurer et de nous comparer aux gens qui vivent dans les pays arabes, eh ben c'est très triste.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Pourquoi veux-tu que moi aille changer le monde? Je me réveille en somme de ce long songe. Quand un carreau brisé au fond du passage, c'est de la s'aimer. Il la tenait serrée, il mâchait le visage, il la consolait de n'être pas une autre. Contre un carreau brisé, tout au fond du passage, c'est de la s'aimer. Comme on peut se blesser, la main sous le lainage, la caresser. Un beau plus ne sera peut-être plus personne. Un beau ne me prendra comme bête de somme. Pourquoi veux-tu que moi aille changer le monde? Ce long songe. Et le matin suivant, il faisait jour à peine, ils se sont enfuis par le bord de la Seine. Il faisait nuit. Tout au fond du couloir, il la tenait serrée. Sur le parquet de chêne, un à l'autre collé, se sont aimés. Un temps ne reviendra, peut-être plus jamais.
Saïed Kachoua, il n'y a pas que la sécurité sociale ou un peu plus de confort matériel. Il y a aussi quelque chose que vous avez appris, jeune garçon, dès que vous avez commencé à aller au lycée israélien. C'est la culture, la liberté de discussion, les controverses intellectuelles et une certaine liberté de l'information aussi. Vous qui travaillez au journal israélien Haaretz, vous savez que vous pouvez aussi y écrire ce que vous voulez, que des Israéliens critiquent la politique israélienne, ce qui n'est pas toujours le cas à l'intérieur des pays arabes ou de la Palestine, des territoires palestiniens. On va écouter la lecture d'une page de votre livre « Et il y eut un matin » où votre héros, en l'occurrence vous, je suppose, s'énerve en écoutant Al Jazeera.
Oh my God.
Je presse la flèche du haut sur la télécommande pour faire défiler les chaînes. NBC diffuse qui veut gagner des millions. À Abu Dhabi, on peut voir le maillon faible. Je fais l'impasse sur les émissions religieuses. Au début, ça m'amusait, mais maintenant, je les identifie au quart de tour. Quand je vois un cheikh avec une calotte sur la tête, je sais qu'il prêche ou enseigne la religion. Il y a des tas de chaînes de ce genre où on lit le Coran à longueur de journée en pontifiant sur ce qui est permis ou interdit par l'islam. Je hais la tête des présentateurs, leur façon de scander le « K ». On appelle ça le « calcala ». On l'a appris en cinquième, je me rappelle. On doit accentuer le « K » en lisant le Coran, l'arracher de la gorge comme si on allait vomir des « crac, 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 crac ». Certaines chaînes, surtout la télévision publique saoudienne, sont en dessous de tout. L'image, la musique, les génériques, on dirait la télévision jordanienne d'il y a 10 ans. C'est incroyable qu'à côté des émissions de qualité et des luxueux studios d'Al Jazeera ou de la télévision libanaise, il existe des chaînes arriérées où les animateurs ne comprennent rien aux médias actuels. Tout le monde regarde Al Jazeera, en particulier quand une nouvelle guerre éclate. Mais on finit par s'en lasser car à la télévision, toutes les guerres se ressemblent. Au prochain conflit, il faudra inventer autre chose. Ça devient ennuyeux à force de regarder un écran noir ou vert. Je ne raffole pas d'Al Jazeera. De ce que j'ai pu en voir, ce sont des experts et des commentateurs qui palabrent sur des informations déjà connues, celles que le monde arabe apprécie et est habitué à entendre. Les noms des dirigeants arabes ne sont jamais mentionnés et il n'y a pas davantage d'enquête sur les leaders politiques et les personnalités publiques. On ne veut fâcher personne. Surtout pas les princes des Émirats avec l'argent du pétrole, puisqu'après tout, ce sont eux qui financent la chaîne. Malgré sa réputation, ce n'est que de la poudre aux yeux. On a beau dire qu'il s'agit d'une révolution dans la couverture de l'information pour le monde arabe, ce n'est pas du vrai journalisme.
Saïed Kachoua, là il s'agit d'une critique de la chaîne arabe Al Jazeera, mais c'est vrai que dans les pays arabes et de même dans les territoires palestiniens, il n'y a pas tellement de possibilités de discuter la doxa, le gouvernement, les choix. On ne peut pas non plus être athée, on ne peut pas non plus vivre avec une femme sans être mariée. Enfin, il y a tout un nombre d'interdits que vous pouvez ressentir, par exemple, à Tira, quand vous rentrez chez vous, alors qu'en Israël, il y a une certaine liberté de mœurs, de pensée et de parole. C'est un des gros problèmes qui fait que un arabe israélien a du mal ensuite à retourner vivre dans sa famille. C'est quand même une douleur terrible d'être écartelé entre la culture d'un pays oppresseur et la culture de la famille, c'est-à-dire de la chaleur que l'on recherche.
Si je veux vivre comme on vit en ville, et pas comme on vit au village, bien sûr. Moi, c'est ce que je recherchais. Le style de vie, disons une sorte de démocratie qui n'existe pas ailleurs. Parler de liberté d'expression, dans un des derniers articles que j'ai écrit, quand on m'a demandé ce que j'aimais le plus en Israël, j'ai dit la liberté de penser, la liberté d'écrire. Et je pense que c'était une erreur de ma part. Peut-être que j'étais naïf à ce moment-là, mais aujourd'hui je ne suis pas tellement sûr à quel point on peut parler de liberté de création et de liberté d'expression en Israël. Je ne compare pas ce qui se passe avec des pays où il n'y a pas de démocratie. Bon, dans des pays arabes, il y a des choses qui sont beaucoup plus horribles qui s'y passent, bien sûr. Donc, on ne peut pas parler de liberté d'expression dans une telle situation, c'est un petit peu bizarre.
Mais
pour les Arabes, en Israël, il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de s'exprimer que ce qui était le cas il y a 5 ou 6 ans. L'État d'Israël peut être une démocratie seulement si on fait partie de la population juive. Et je le dis avec beaucoup de regret. Et je le vois avec mes copains israéliens qui ont les mêmes idées que moi, qui en souffrent aussi. La situation de la presse, la situation de la contrainte, c'est la liberté d'expression n'est plus une vache sacrée en Israël.
Et
c'est vrai, dans cette dernière période, même j'écrivais dans le journal Haaretz, qui véritablement est considéré comme extrêmement libéral, et je devais justifier chaque mot et chaque phrase que j'écrivais. Je l'ai senti comme ça, en tout cas. Et c'était un joug extrêmement pénible à porter. D'un côté, peut-être que les Arabes, citoyens du pays, qui comptaient sur moi de les représenter, parce que j'avais cette plateforme de la télé et du journal, de présenter leurs idéaux politiques et leurs peine, leur souffrance. D'un autre côté, le mainstream israélien, beaucoup d'entre eux attendaient de scruter chaque phrase, chaque mot que j'écrivais, chaque que je disais, pour dire, ah ouais, les Arabes, ils sont tous comme ça, voilà, et voilà, cet Arabe-là, il rêve la nuit de trucs horribles pour l'État d'Israël. C'est pas vrai. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai toujours dit, ce que j'ai toujours écrit, c'était véritablement pour assurer l'avenir de cet endroit où je voulais vivre à égalité avec ma famille et mes enfants. Mais je pense que j'ai été poussé à l'extérieur de cette société. Donc vraiment, c'est un poids très dur à porter. C'est l'endroit où j'ai voulu vivre. Peut-être que, bon, Jérusalem est une ville très conservatrice. C'est vrai qu'on ne peut pas se sentir libre à Jérusalem, mais la question, si je peux comparer entre Tira, où je suis né, endroit merveilleux, mais depuis 48, c'est la même superficie qu'en 1948. Après la guerre, il y avait 1500 personnes. Maintenant, on est 25 000 à vivre là-bas, vraiment à l'étroit. Les gens ne partent pas. Et donc, comparer la démocratie de Tira et la démocratie de Tel Aviv, ben non, moi, j'aurais préféré vivre à Tel Aviv, sans me cacher.
Vous avez arrêté d'écrire pour Haaretz, Shayat Kachwa ?
Non,
je n'ai pas arrêté.
Et alors, vous continuez à envoyer des éditoriaux à Haaretz depuis l'Illinois.
Chaque semaine.
Et vous écrivez sur Israël ou sur les États-Unis ?
Les deux. Vous savez, la colonne que j'ai publiée, l'article que j'ai publié samedi, chaque semaine, c'est une notion que j'ai découvert aux États-Unis, c'est play date. Il faut, pour que vos enfants puissent jouer, il faut définir une date pour le jeu. Voilà, j'ai découvert cette notion et j'ai parlé des enfants arabes de Jérusalem qui prennent le seul playdate et le seul endroit où ils peuvent jouer, c'est l'esplanade des mosquées. Et donc j'ai pris cette notion de playdate pour parler des enfants de Silwan et de Jebel Mokaddar qui jettent des pierres.
Et
il y a une question, qui est-ce qui est derrière ça en Israël ? Quelle est l'organisation qui est derrière tout ça ? Et c'est une question tellement bête pour quelqu'un qui a vécu ou qui a vu Jebel Mokaber ou Silwan. Parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe là-bas, les implantations, les contraintes, tout ça. Donc moi j'ai pris cette notion américaine de playdate et j'ai écrit sur playdate à Jérusalem. Voilà. Bon, c'est vrai, ils jettent des pierres et on punit les parents en leur enlevant la sécurité sociale. Ben non, au lieu de faire ça, on aurait dû simplement trouver une date pour que ces enfants puissent jouer une fois par semaine, les emmener dans un musée, les emmener dans un parc. Mais ça, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de parc, il n'y a rien pour eux.
Saïed Kachoua, pendant des années, les Israéliens, qu'ils soient arabes, qu'ils soient juifs, avaient un rendez-vous à la télévision. C'était votre série télévisée qui s'appelait Travail d'Arabe, qui avait un écho formidable. Et là, vous avez décidé de ne pas écrire de cinquième saison. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez tout d'un coup décidé d'arrêter quelque chose qui était un humour très grinçant, mais qui expliquait peut-être à des Israéliens qui l'ignoraient ce que c'était que d'être un arabe israélien dans ce pays? Qu'est-ce qui vous a motivé pour arrêter?
J'ai écrit 4 saisons de travail d'arabe, c'était déjà dur. Pour écrire pour la télé, c'est pas simple. Et quand ça réussit, les espoirs font que l'attente est beaucoup plus haute. Et j'aurais dû écrire tout de suite une cinquième saison. Et la chaîne pour laquelle j'écrivais voulait, le producteur aussi, mais après la quatrième saison, j'ai pas pu l'écrire. Parce que même déjà il y a un an, vous savez, l'écart entre les positions du gouvernement et la possibilité d'un accord avec les Palestiniens, c'était déjà triste d'écrire sur des tentatives de vie commune sous une forme de comédie. Et puis, aussi, la vérité, je m'en suis un peu fatigué, c'est un travail extrêmement dur. Donc, j'ai décidé de faire autre chose. J'ai décidé de faire une pause et de faire autre chose, et je l'ai fait. Ça a commencé à être diffusé en Israël. C'était le 21 octobre. C'est un drame en 10 épisodes sur un scénariste qui en a marre de faire de la comédie, qui en peut plus.
Et puis l'année dernière, Saïed Kachoua, exactement, en octobre 2014, Le Monde en France avait commencé à publier un échange de lettres entre vous et Edgar Keret. Vous avez le même éditeur en France, c'est les éditions de l'Olivier. Vous êtes amis et vous parliez justement de votre exil. Edgar Keret vous donnait des nouvelles d'Israël. Et puis, cette correspondance publiée, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle s'est arrêtée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une impossibilité de poursuivre vos conversations amicales parce qu'un océan vous sépare?
Non, avec Edgar, on continue à s'écrire par courriel privé. C'est pas écrit de telle sorte que ça puisse être publié dans les journaux. C'est pas une correspondance. Non, on avait décidé à un moment de l'écrire pour le publier, mais là c'est quelque chose de privé, c'est différent. On peut être aussi tous les deux très occupés. Moi j'étais très très content. Je serais même très content si on recommençait. Mais il faut se souvenir aussi que même déjà comme ça, ça m'est difficile d'écrire mon article hebdomadaire que je ponds déjà depuis 11 ans. C'est du boulot et je suis sûr aussi que Edgar a aussi du travail. Et puis s'asseoir et écrire une lettre à Edgar Keret qui sera publiée dans les journaux, c'est beaucoup de travail.
Saïed Kachoua, en quittant Israël pour l'Illinois, vous avez mis fin à la peur, à cette peur qui vous a poussé à quitter Jérusalem. Le désespoir, il est là, puisque le désespoir, c'est le manque d'espoir sur la possibilité de faire évoluer la situation bloquée en Israël. Est-ce que cet éloignement vous permet de continuer à écrire? Parce que quand vous étiez en Israël, vous écriviez sur votre situation dans ce pays. Est-ce que l'écriture est partie avec vous aux États-Unis ou est-ce qu'elle est un peu restée en Israël?
Ben,
l'écriture, elle m'a accompagné, elle est venue avec moi aux États-Unis parce que, en fait, c'est le pays qui est venu un peu avec moi aux États-Unis. Et la première chose que je lis le matin, c'est le journal Haaretz sur Internet. Alors, je regarde un petit peu quelles sont les nouvelles de mon village, Tira, de ma région, voir ce qui se passe dans la région et à Jérusalem. C'est ce que je lis avant de lire la New York Times. Je vis au centre de l'Illinois et ma vie est peut-être très confortable, mais je ne sais même pas comment s'appelle le maire de Champaign. Je ne sais pas contre qui il s'est présenté. Bon, je ne sais même pas. Bon, d'accord, je connais le nom de Donald Trump, mais je ne sais pas qui s'occupe de l'économie, qui s'occupe du budget aux États-Unis. Peut-être que ça va changer avec le temps, mais pour l'instant, je connais les gens dans les médias en Israël, mais pas aux États-Unis. Est-ce que ça a influencé mon écriture? Je ne sais pas. J'essaie d'être très honnête dans mon écriture. Vous savez, c'est un mélange. La plupart de mes articles, c'est un mélange entre ma vie à moi, ma vie dans ce nouvel endroit, et les sentiments de douleur et de peine vis-à-vis de l'endroit que j'ai quitté. C'est pas que ça m'est dur d'être là-bas. C'est pas à cause de Champagne, c'est pas à cause de la ville, hein. C'est pas à cause des États-Unis. Mais ce sentiment de peur qui m'a fait perdre et cette perte d'espoir, et voilà, j'ai baissé les bras. Non, ce sentiment aussi où mon père nous enseignait qu'être exilé, c'est la chose la plus cruelle qui peut arriver à un être humain. Voilà, et c'est une peur d'être exilé. Moi, je n'essaie pas de m'intégrer. Je n'essaie pas de lutter pour mes droits. J'ai tous les droits dont j'ai besoin à l'université. Mais j'ai une douleur extrêmement profonde. Et un sentiment désagréable de perte. Pas de perte de moi en tant qu'arabe, que palestinien. De perte de d'échec, que ressentent beaucoup d'Israéliens qui savent que ça va à volo. Il y a un gouvernement d'extrême droite. Et je ne suis pas certain que les droits de l'homme et que les droits d'expression soient quelque chose qui inquiète ce gouvernement. Ce gouvernement s'inquiète d'un sentiment mystique et de savoir un petit peu combien de territoires il pourra occuper et qui foule aux pieds tous les lois internationales et qui foule aux pieds les droits des Palestiniens. Et je crois beaucoup de mes amis qui s'occupent d'écriture ont peur aussi et sont attaqués. Je ne veux pas parler ici de camarades comme Edgar Keret ou de sa femme qui ont été attaqués pour des choses qu'ils ont écrites. Et voilà. Et après, ça devient un cauchemar et ça devient difficile. Donc, c'est peut-être plus facile d'attaquer un arabe. Mais ce qui commence comme ça, s'il n'y a pas une fin qui est mise tout de suite, eh ben, ça sera par des attaques beaucoup plus dures. Des attaques, par exemple, contre Gideon Levy, un type qui écrit dans Haaretz. Il a quasiment été lynché pendant la guerre l'opération plan durci à Gaza. Quelqu'un qui ose dire quelque chose contre le gouvernement, ou quelque chose qui ose dire quelque chose sur la coexistence avec les Palestiniens. Le président Rivlin dit quelque chose sur la coexistence, et bien il est attaqué. La situation se dégrade.
Sayed Kachoua, votre dernier livre en France est paru en 2011. Ça s'appelait « La deuxième personne ». C'était un livre dans lequel il y avait un personnage qui s'appelait Amir, qui trouvait le bonheur en devenant israélien, c'est-à-dire en prenant l'identité d'un mort israélien, en devenant juif d'une certaine manière. C'est une fable très amère sur le fait que, voilà, en Israël, pour un arabe, un intellectuel, un jeune homme talentueux comme Amir, il n'y a de possibilité de vivre en paix qu'en devenant juif.
C'est très douloureux, mais oui, c'est l'histoire de quelqu'un qui tente de se sentir faisant partie d'eux. Il y a un passage dans le livre, là. Il rentre dans un bar et il veut dire, moi, je veux cesser d'être différent. Je veux en être ce soir. Oui. Être une minorité non désirée, ça fait partie de la vie quotidienne. Il y a toujours quelque chose qui reste au fin fond du crâne qui vous dit, attention, t'es pas comme eux. Tu peux être attaqué. Lui, il voulait être comme eux, bien sûr, et se sentir comme faisant partie du pays. C'est une histoire inventée, c'est imaginaire, mais c'est très proche de la réalité. Et plus que de prendre l'identité israélienne, peut-être que la chose la plus douloureuse, c'est qu'il a dû tout d'abord enterrer son arabité et sa vie de musulman. Il a dû l'enterrer. Malheureusement, quand on regarde la politique officielle de l'État et ses lois qui n'ont pas été changées, la seule façon de faire partie du pays et d'avoir tous les droits, c'est si vous êtes né d'une mère juive. Et c'est une des histoires de ce livre. La deuxième personne, c'est une sorte d'exilé qui a quitté son village quand il était petit, quand il était jeune, une sorte de réfugié, et qui enterre son identité.
Saïd Keshwa, vous n'avez pas enterré votre identité. Vous êtes dans l'Illinois maintenant, vous n'y resterez peut-être pas non plus toute votre vie. Est-ce qu'il va y avoir un autre livre de vous, parce qu'on l'attend ici, en France, avec beaucoup d'impatience?
Merci, oui. Je travaille sur un livre et il y a une bonne chance que je le terminerai parce que j'ai signé un contrat et j'ai demandé à l'éditeur de me mettre une date limite. Et si je ne me tiens pas à cette date limite, je devrais payer des pénalités. Et donc, j'appartiens à un peuple très paresseux. Et l'écriture est très dure, c'est un métier. Je ne peux pas penser à des choses que je hais le plus que l'écriture. Bon, ça me coûte beaucoup. Ça, c'est beaucoup de douleur, beaucoup de peine. Et c'est un livre douloureux parce que j'écris sur le pays à partir de l'Illinois. J'écris de l'Illinois au sujet de mon père, qui toute ma vie m'a prévenu, et mon père que je maudis parce qu'il m'avait enseigné de ne pas devenir un réfugié, de ne pas devenir un exilé. Eh bien, il est mort 5 mois après que j'ai quitté le pays, que je sois parti pour l'Illinois. Et donc j'écris à ce sujet. J'écris beaucoup sur le pays, d'un point de vue de l'exil.
Il y en a d'autres qui ont écrit comme ça. Je pense à Edouard Saïd, par exemple, et qui écrivait des livres magnifiques et qui a toujours été un exilé. En tout cas, je vous souhaite, Saïd Keshwa, une belle écriture et on attend votre livre avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Merci d'être venu aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci, Michel Zotowski. C'est fini pour aujourd'hui, mais nous reviendrons demain soir. J'aurai le plaisir de recevoir Agnès Jaoui. Et bien sûr, après les informations de 21h, vous avez rendez-vous avec Laurent Goumard, le nouveau rendez-vous. À demain.